en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Le jeudi 6 février 1964, Joseph Kessel faisait son entrée à l'Académie française, où il avait été élu 2 ans plus tôt, le 22 novembre 1962, au fauteuil laissé vacant par la mort du duc de la Force. C'est André Chanson qui l'y recevait, au nom de la Compagnie des 40. Les paroles de remerciement de Kessel sont demeurées célèbres, je cite l'extrait, « Pour remplacer le compagnon dont le nom magnifique a résonné glorieusement pendant un millénaire dans les annales de la France, dont les ancêtres, grands soldats, grands seigneurs, grands dignitaires, amis des princes et des rois, ont fait partie de son histoire d'une manière éclatante, pour le remplacer, qui avez-vous désigné ? Un russe de naissance et juif de surcroît, un juif d'Europe orientale. Vous savez, messieurs, et bien qu'il ait coûté la vie à des millions de martyrs, vous savez ce que ce titre signifie encore dans certains milieux, et pour trop de gens. Vous avez marqué, par le contraste singulier de cette succession, que les origines d'un être humain n'ont rien à faire avec le jugement que l'on doit porter sur lui. De la sorte, messieurs, vous avez donné un nouvel et puissant appui, à la fois obstiné et si belle, de tous ceux qui, partout, tiennent leur regard fixé sur les lumières de la France. » Et l'auteur de Belle de jour de se livrer ensuite à l'éloge de son prédécesseur, comme le veut la coutume, son prédécesseur Auguste Armand Guilain Marie, 12e duc de Caumont-la-Force. Il vaut de s'attarder un peu sur la vie et les débuts de Joseph Kessel, né à Clara, en Argentine, le 10 février 1898. Son père, médecin, est de nationalité lituanienne. Mais dans la Lituanie d'alors, russe, il n'est pas permis aux Juifs d'exercer la médecine. Qu'importe. Après avoir passé son doctorat à la faculté de médecine de Montpellier, Samuel Kessel a pris la décision de partir avec son épouse dans une colonie fondée au cœur de la Pampa par le baron Hirsch pour ses coreligionnaires. Les Kessel n'y resteront pas longtemps. On les retrouve dans l'Oural, à Orenbourg, très précisément, entre 1905 et 1908, puis en France, à Nice. Comme devait le noter Michel Droit, successeur de Joseph Kessel au 27e fauteuil, lors de son propre discours de réception, le 26 mars 1981, je le cite, « L'aventure paraissait bien attendre Joseph Kessel au creux même de son berceau, déposé par le destin migrateur de sa famille en pleine pampa argentine, où déjà les cavaliers des grands espaces faisaient escorte à son destin. » C'est au lycée Masséna de Nice que s'effectue la scolarité du jeune Kessel, avant qu'il ne rejoigne Paris et le lycée Louis-le-Grand. Enfant précoce, il a su lire à 4 ans, et le lycéen est tout aussi doué, mais il hésite encore quant à la carrière qu'il pourrait embrasser. Un temps caressé, le métier de boxeur laisse bien vite la place au métier d'auteur dramatique, et, âgé de 17 ans, Kessel propose sa première pièce au théâtre de l'Odéon. C'est cependant le journalisme qui l'attire et, sans tarder, ce fonceur taillé comme un athlète rejoint l'équipe du journal des débats. La Première Guerre mondiale, qui éclate, lui offre un terrain d'aventure qu'il entend bien ne pas laisser inexploré. Engagé volontaire, il est versé dans la cavalerie, puis dans l'aviation alors balbutiante. Même au cœur de l'action, Kessel emmagasine le matériau de ses œuvres futures, et notamment de l'équipage, récit de l'amitié de 2 pilotes mis à mal par une rivalité amoureuse, texte qu'il publiera en 1923. La guerre terminée, c'est tout naturellement que Joseph Kessel revient au journalisme en qualité de grand reporter. Ses origines russes et sa maîtrise de la langue valent à l'ancien pilote de chasse d'être retenu pour une mission à Vladivostok, dans cette Russie révolutionnaire où les Alliés tentent sans succès de soutenir les Blancs contre les Rouges. De ce périple, celui que ses amis surnomment Jeff revient avec sa première épouse, Sandy, mais aussi avec un goût pour l'opium qu'il cultivera toute sa vie et dont il veillera à ce qu'il n'entraîne chez lui aucune dépendance. En 1918, naturalisé français, décoré de la Croix de guerre et de la médaille militaire, Kessel n'a que 20 ans. Mais il s'attache déjà à son sillage une réputation de bravoure et d'héroïsme qui attire l'attention de Gaston Gallimard. Bientôt, le patron de la NRF propose au grand reporter de publier son premier manuscrit, La Steppe Rouge, le récit de son odyssée dans la Russie bolchévique. Dans son discours d'éloge à Kessel, Michel Droit résume comme suit la vie menée par le jeune pilote alors à Vladivostok. Le jour, puisqu'il parle russe, Kessel aide le chef de gare de la ville à faire partir et arriver les convois. Mais, dès que le soleil se couche et les nuits sibériennes sont longues en hiver, il a toutes celles-ci pour boire, pour chanter, pour danser à l'aquarium, le seul établissement de Vladivostok à cet usage et à quelques autres. C'est au cours d'une de ces nuits qu'il fait la rencontre du lieutenant de Cosaque, Léonide Savine, dont il écrira plus tard que les épaules orgueilleuses, la taille étroite, le port de la tête haussé avec le défi et l'animale souplesse de tout le corps suffisaient à l'identifier. Et Savine, nous dit Droit, tout en écartant à coups de fouet les corps mourants de typhus qui encombrent l'accotement des voies ferrées, au-delà des derniers quais de la gare, l'emmène, pour lui en faire les honneurs, vers l'antre qui est le sien. Il s'agit d'un wagon de première classe du Transsibérien, aux parois d'acajou, au sol jonché de tapis de Boukhara, aux meubles recouverts des plus précieux tissus de l'Orient, où l'on boit la vodka dans des gobelets d'argent, où l'on dévore des chachliks dans des assiettes orfévrées, où l'on se déchire la gorge à chanter les refrains de la steppe, où le moindre claquement de fouet du maître fait immédiatement surgir une nuée de serviteurs, tous cosaques comme lui, qui s'agenouillent à ses pieds en l'appelant « votre seigneurie ». Alors, messieurs, imaginons notre jeune officier franchissant aux côtés de cet étonnant compagnon de son âge le seuil de cette caverne d'Ali Baba, je résiste mal à la tentation de dire « Kessel est né ». Joseph Kessel, élu à l'Académie française au 27e fauteuil le 22 novembre 1962. Pour l'heure, notre romancier n'a guère publié qu'un roman, mais à 20 ans, sa vie est à elle seule le prétexte à plus de 100 récits. C'est que le succès immédiat de La Steppe Rouge, édité par Gaston Gallimard en 1922, amène Kessel à publier un an plus tard L'Équipage, récit évoqué tout à l'heure. Le succès est plus grand encore et, en 2 ans et demi, L'Équipage sera réédité 82 fois. C'est la gloire, et la gloire à 23 ans seulement. Peu à peu, la légende prend jour. Kessel, le magnifique, hante les boîtes, les bars à la mode, du côté de Montparnasse. Il émarge chez les princes russes en exil, avec lesquels il enchaîne les tournées des grands-ducs. Mais il ne dédaigne pas sa coquinée avec le milieu parisien, dont la gouaille et le code d'honneur le fascinent. De cette époque restent des œuvres telles que Belle de jour, Nuit de Montmartre et Nuit de prince. La mort prématurée de sa compagne Sandy l'amène à faire le point sur sa vie. Conscient de n'avoir sans doute pas été aussi proche d'elle qu'il l'aurait dû, Joseph Kessel décide de changer de vie. Désormais, il publie les aventures et les reportages des autres dans Détective, l'hebdomadaire que possède Gaston Gallimard. Chaque semaine, il livre au public les enquêtes de grands reporters ou d'écrivains tels qu'Albert Londres, Francis Carcot ou encore Pierre Macorlan. Mais le lion ne pouvait rester calme bien longtemps. Alors qu'il se cherche de nouveaux terrains d'aventure, l'histoire lui livre sur un plateau l'embrasement général qu'est la Seconde Guerre mondiale. S'il s'est toujours tenu à l'écart de la politique, Joseph Kessel ne pouvait rester insensible au sort fait aux Juifs partout en Europe. Déjà au début des années 30, il avait rompu avec le journal Gringoire, auquel il livrait jusqu'alors quelques articles, mais dont le virage à l'extrême droite était une préfiguration de cette collaboration dans laquelle le journal devait ensuite s'engager. Kessel publie alors, en 1935, « La passante du sans-souci », roman dans lequel il dénonce le fascisme. Comme Belle de jour, ce roman a depuis été adapté au cinéma, avec Romy Schneider et Michel Piccoli dans les rôles-titres. Quand la France entre en guerre, Joseph Kessel est correspondant de guerre en Espagne, après avoir assuré une série de reportages en Amérique du Sud. Juif naturalisé français, l'auteur de Nuit de Montmartre hésite un temps entre Londres ou l'Amérique. Finalement, c'est dans le sud de la France qu'il rejoint la résistance, avant de revenir à son projet initial et de partir pour Londres dans la clandestinité. La suite de l'histoire est connue, c'est à Londres, avec l'aide de son neveu Maurice Druon, qu'il compose les paroles du chant des partisans. L'hymne va devenir le chant officiel de la résistance. L'ancien pilote reprend lui aussi du service et c'est en qualité de pilote dans l'escadrille Sussex qu'il revient en France au lendemain du débarquement. Entre-temps, il a trouvé le temps d'écrire L'Armée des Ombres, autre chef-d'œuvre qui sera lui aussi adapté au cinéma avec François Perrier, Simone Signoret et Lino Ventura. Toujours atteint du virus du journalisme, Kessel obtient de couvrir pour France Soir le procès de Pétain et ceux de Nuremberg. Suivront d'autres reportages, le procès Eichmann notamment, et d'autres voyages aux quatre coins de la Terre, du Kenya à l'Afghanistan. De son séjour en Afrique, Joseph Kessel tire le matériau du Lion, qui sera son plus gros tirage. Ce roman, qu'il destinait avant tout à la jeunesse, se vendra en effet à des millions d'exemplaires et lui assurera une renommée mondiale. Pourtant, l'âge aidant, des difficultés conjugales avec sa seconde épouse et des problèmes de santé le contraignent à rompre avec le journalisme. Un sacrifice qui lui coûte énormément. Le 23 juillet 1979, Joseph Kessel s'éteint, victime d'une crise cardiaque. L'Académie française perd un grand fauve qui, après avoir parcouru les vastes steppes, les déserts reculés et les hautes cimes, avait fini par prendre goût à la vie policée d'académicien.